RMC, cours numéro 1.
Bienvenue sur cours numéro 1 pour le podcast quotidien du Masters 1000 de Monte Carlo, le Rolex Monte Carlo Masters, appelons-le par son nom de naming, on va dire. Ravi de vous retrouver pour cette petite carte postale. On va en faire tous les jours jusqu'à la finale du dimanche 12 avril. Et il fallait qu'on débute par un petit résumé de cette première journée, donc de ce Sunday Start, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont déroulées sur le rocher, entre montagne et mer. Hein. Vous savez, c'est l'expression favorite de Mark Mori, le speaker, quand il présente les joueurs. Il dit « côté mer, vous avez un joueur, et côté montagne, vous avez un joueur ». Bon, bref, il s'est passé beaucoup de choses. On va essayer de le faire de manière chronologique, parce que, en fait, la journée a mis du temps à démarrer. Pourquoi ? Parce qu'il y a le deuxième tour des qualifs, donc, et elles se sont un petit peu éternisées, parce qu'il y a eu des matchs accrochés, et notamment celui d'Alex Muller, le Français, donc, qui s'est extirpé de ce tableau des qualifs très relevé en battant en 3-7, italien Matteo Arnaldi, donc Muller qui rejoint donc le tableau final, et on a appris donc au moment de la répartition du tirage au sort, donc du juge arbitre, qu'il allait jouer un Français, Corentin Moutet. Ce sera donc mardi. À noter qu'il y a eu beaucoup de forfaits annoncés lors de cette journée, donc ça a un peu chamboulé le tableau. Ainsi, Valentin Vacherot devait jouer initialement le Polonais Machrak qui est forfait. Il jouera finalement un joueur issu des qualifs, Cerundolo. Et puis justement, Arnaldi, donc battu par Alex Muller, qui a été repêché en tant que lucky loser, parce qu'il y a eu d'autres forfaits, et notamment celui très très embêtant de Giovanni Pecci-Péricard, blessé au poignet, et on peut dire qu'il lui arrive que des bricoles au Lyonnais, parce que vous l'avez sans doute appris, il a été lâché par Francisco Roig, avec qui il avait débuté une collaboration à Indian Wells, et Francisco Roig, on le sait, travaille depuis quelques jours avec Iga Świątek, et faut dire qu'il n'a pas été très clean dans la manière de mettre fin à l'aventure, puisqu'il n'a même pas appelé le joueur français. Ça s'est fait entre agents. Franchement, c'est un monde impitoyable, hein, pour reprendre l'expression de Giovanni Pecci, donc il doit maintenant gérer une blessure. Donc vraiment, c'est une année compliquée pour le géant Joe, mais on espère qu'il va se remettre, en disant que dans peu de temps il y a la saison sur herbe, et c'est là qu'il peut frapper fort. Donc fin des qualifs, avec donc un seul Français qui rejoint le tableau final, et puis ensuite on a eu les matchs du grand tableau australien, avec 4 au programme, 3 sur le central et 1 sur le cours des Princes. Ça a été long, parce que il y a eu un premier match accroché entre Nori et Serb Kecmanovic. Nori l'a emporté 7-6 au troisième set, et c'est donc en milieu d'après-midi seulement que Gaël Monfils est entré sur le court, donc avec une sorte d'épée de Damoclès au-dessus de la tête, puisque ça pouvait être le dernier match de la Monf à Monte Carlo. C'est un tournoi qui lui a réussi, on le sait, il a fait une finale ici contre Rafa Nadal, et le score est assez incroyable pour ceux qui se souviennent de ce duel. C'était 7-5, 5-7, 6-0. Et Gaël Monfils, eh bien, pour son premier match depuis un mois, pour sa première sortie sur terre, il s'en est sorti comme un chef face à Talon Kriegspoor, qui, c'est vrai, traverse une période assez difficile, puisque après sa finale à Dubaï, il avait abandonné, puisque non, il n'avait pas joué, il avait déclaré forfait à l'issue de la demi-finale contre Rublev, où il s'était blessé. Eh bien, il traverse une période difficile, il a dû gérer sa blessure, et là, visiblement, c'est l'épaule qui a coincé, puisqu'il a fait venir le kiné alors qu'il menait une manche à zéro, et Gaël a compris qu'il y avait un coup à jouer. C'est vrai qu'il a profité quand même des largesses du Néerlandais, et la Monf, même s'il a eu du mal à conclure, il s'est imposé donc en 3-7, 6-7, 6-1, 6-4, et quand on l'a interrogé, on s'est permis de lui demander s'il jouait un peu plus libéré, puisque on le sait, c'est sa dernière année, donc il a plus rien à prouver, il a plus rien à perdre. Et bien, sa réponse dit presque tout le contraire.
Pas forcément, parce qu'on a envie de bien faire quand même, on a envie de bien faire, j'ai envie de donner quand même du beau tennis, et au début c'était pas ça, parce qu'au début là je jouais pas bien, c'était pas le tennis que je voulais donner. Après, c'était un petit peu mieux, mais voilà, je sens et je sais que je peux mieux jouer, donner un meilleur tennis. Je l'ai fait forcément dans ce début d'année, mais non, il n'y a pas forcément moins de pression, entre guillemets, si ce n'est un petit peu plus.
Bon, en tout cas, cette wildcard a été utilisée à bon escient par le vétéran français. Je rappelle qu'il a 39 ans quand même, hein, faut pas l'oublier. Et au passage, il a battu, s'est approprié un record tout seul, puisqu'il a remporté ce dimanche sa 145e victoire en Masters 1000. Ah oui, ça chiffre. Et donc, jusqu'alors, il partageait le maillot jaune avec Richard Gasquet. Désormais, il est tout seul. Je vous le dis franchement, il n'était pas au courant de cette stat. Et ça lui a fait ni chaud, ni froid. En revanche, le deuxième tour qu'il va livrer face à Alexandre Bublik, il l'intéresse bougrement parce qu'on connaît le style un peu fantasque de Bublik qui est sorti du top 10. Et c'est un match qui promet quand même des étincelles entre deux garçons qui aiment faire le show. Je ne sais pas si ce sera programmé sur Central parce que vous vous doutez bien qu'il y aura un gros embouteillage mardi. Mais en tout cas, si c'est sur le Cours des Princes, si vous avez un ticket pour le Cours des Princes, je pense que vous allez vous régaler parce que mon fils Bublik, c'est une superbe affiche. Après ce match, qui s'est donc déroulé en 3-7, on attendait avec beaucoup d'impatience le choc entre Moïse Kouamé et Hugo Humbert. Alors la première chose à dire, c'est que malheureusement, ce match s'est disputé devant des tribunes clairsemées. Bah, la faute à un coup d'envoi tardif, parce que voilà, il y a eu beaucoup de matchs en 3-7. Et c'est un vrai crève-cœur, quoi, parce qu'on se régalait à l'avance, et je pense que même les joueurs aussi se régalaient à l'avance de jouer devant des tribunes pleines. Mais voilà, quand il est presque 19h30, 20h, qu'il n'y a les moyens de locomotion sont pas faciles à Monte-Carlo, il y a un train qui est souvent bondé, et puis aussi la concurrence du match de foot au stade Louis II. Je pense que malheureusement, les gens ont déserté après le match de Gaël Monfils, et c'est vrai que ça faisait de la peine. Ça faisait de la peine. En plus, les conditions de jeu, en pleine nuit, les conditions de jeu ralenties. Ça, c'est un aspect qu'il faut maîtriser hein, quand vous êtes sur le circuit. On sait que maintenant, dans tous les tournois, notamment Rome, il y a des night sessions, donc les conditions de jeu sont totalement différentes. Mais en tout cas, c'est un match qu'on attendait avec beaucoup d'impatience. Moïse Kouamé qui était là depuis une semaine, ce qui n'était pas le cas de Humbert. Puisque vous savez que vendredi, samedi, il a joué l'exhibition UTS de Patrick Mouratoglou à Nîmes. Et il nous raconte comment il a abordé cette rencontre avec une préparation, on va dire, minimal, mais en tout cas, il s'attendait à ce coup de Trafalgar, si je puis dire. Écoutez, Hugo Humbert, c'est la sagesse.
Non, après, je m'y attendais, on m'avait déjà fait le coup quand j'avais fait l'UTS à Francfort. Après, moi, c'est comme ça. Je me suis dit, c'est un match sympa. Sûrement, je me disais qu'on allait jouer dimanche. Donc non, c'était cool, je me suis pas pris la tête plus que ça. J'ai fait la voiture, c'était 3h, donc ça va, je suis arrivé hier soir, j'ai tapé ce matin, et du coup, tout allait bien, quoi. J'ai pas essayé de chercher à comprendre, et en tout cas voilà, c'est comme ça, il fallait l'accepter. Je pouvais pas changer de toute façon.
Il avait pas de quoi se faire des nœuds dans la tête hein. À partir du moment où la programmation est tombée, à partir du moment où le juge arbitre il regarde les tableaux de Bucarest, de Marrakech et de Houston, il voit qu'Hugo Humbert n'est pas dedans, il se dit bon bah voilà, il est dispo. Puis c'est une petite manière aussi pour l'ATP de montrer qu'il est le patron, quoi. En tout cas, ça l'a pas dérangé, Hugo Humbert, puisque il a livré un match vraiment plein contre Moïse Kouamé. Pendant une vingtaine de minutes, on s'est dit, oulala, l'élève est en train de prendre cher, puisqu'il y a eu 4-0 très très vite, avec vraiment un tennis très offensif délivré par le gaucher Messin. Et puis progressivement, Moïse Kouamé est sorti de sa petite torpeur, peut-être. On imagine qu'il y avait beaucoup de tension. Et ça s'est rééquilibré. Il a recollé à 3-4. Mais là, il a livré un mauvais jeu de service qui a permis au Humbert de rebreaker une nouvelle fois et de conclure un manche 6-3. Deuxième set, beaucoup plus équilibré. Moïse Kouamé a eu beaucoup d'occasions de breaker. Malheureusement, il a manqué d'expérience. Ses choix n'étaient pas bons. Et Hugo Humbert donc, a pu breaker pour servir pour le match une première fois. Et là, il y a eu un petit couac, puisque Moïse Kouamé a recollé à 5 partout. Et c'est là qu'il a commis une petite erreur de jeunesse, puisqu'il a livré un très mauvais jeu à 5 partout, avec beaucoup de mauvais choix, un premier point mal négocié avec une amortie mal sentie, et ça a permis à Hugo de respirer un bon coup et ensuite de conclure de la plus belle des manières avec une victoire finalement indiscutable, 6-3, 7-5, mais quand même 1h47 à la pendule, ça veut dire qu'il y a eu match. Il y a eu match et ça s'est joué beaucoup à l'expérience, et en tout cas Hugo Humbert, quand on l'a vu à la sortie de la douche, il était quand même impressionné par le niveau de jeu de Moïse Kouamé. Mais, et c'est là qu'on voit que c'est un grand professionnel, il avait pris ce match très au sérieux parce qu'il avait pris des renseignements début février à Montpellier.
Ouais, c'est vrai que c'était un match piège. J'étais super content de l'affronter, ouais, parce que voilà, j'ai suivi un peu tous ses résultats, et c'est vrai qu'il a énormément progressé les derniers mois. Je l'ai vu jouer à Montpellier. C'est vrai que j'ai été impressionné par sa maturité sur le court, et du coup c'était super intéressant de jouer ce soir ici à Monte Carlo. En plus, sur le central, on avait un court sympa, donc c'était bien, et de voir ce qu'il va donner les prochaines années, les prochains mois aussi, c'est super intéressant, et voilà, il va bien progresser, je pense, et c'est bien pour le tennis français de l'avoir. Il est encore
très perfectible. Après, je trouve qu'il a un super potentiel. Il me faisait penser un peu à Gaël, quoi. Il t'attend un peu, il est malin. Il a une super main, j'ai trouvé. Une super première balle. Ça, je l'avais vu aussi à Montpellier. Il est capable de servir à 215 déjà. Donc, il a quand même déjà une bonne épaule. Non, à 17 ans, c'est impressionnant. Impressionnant. Et du coup, je pense que c'est bien aussi qu'il soit avec Richard, qui va lui donner son expérience. Et puis Laurent Raymond aussi, super entraîneur. Donc, il a tout ce qu'il faut pour progresser. Ouais.
Donc Hugo Humbert qui décroche une belle victoire. Quel contraste hein, entre l'Hugo Humbert de cette année et celui de l'an passé où il s'était présenté sur le court avec une fracture à l'auriculaire. Il s'était cogné dans sa chambre d'hôtel à Nîmes et en fait il était super handicapé. Cette fois-ci tout va bien. L'excession d'un petit bobo au genou, mais le genou qui s'est bloqué pendant 2 jours, mais tout va beaucoup mieux. Et puis c'est sur le court qu'il a appris l'identité de son futur adversaire, à savoir Yannick Sinner. Marc Mauri a dit bon, moi t'es content de jouer Sinner. Ah bah dis, tu me l'apprends. Bon, en tout cas on aura l'occasion d'en reparler, mais ce sera évidemment un choc entre le numéro 2 français et le numéro 2 mondial qui a décidé de jouer ce tournoi, alors qu'on le sait, il a remporté Miami il y a pile une semaine, mais on l'a aperçu sur les cours d'entraînement ici dès jeudi, donc ça veut dire qu'il est archi motivé. On rappelle les Denis Breul, hein, si Sinner remporte le tournoi, il redevient numéro 1 mondial. Donc pour lui, c'est une belle petite carotte. En tout cas, ça, ce match sera programmé en principe mardi, parce que on voit pas le juge arbitre accorder 2 jours off à Hugo Humbert, d'autant que Sinner a joué en double ce dimanche avec bonheur sur le central. Maintenant, vous avez peut-être envie d'entendre Moïse Kouamé, bien sûr, parce que il était déçu, bien sûr, de la défaite. Donc le scénario de Miami ne s'est pas renouvelé. Miami, il avait passé le premier tour. Cette fois-ci, il est tombé sur un os. C'était mine de rien le deuxième joueur le mieux classé qu'il affrontait, puisque à Miami il avait joué Lechka qui était un peu moins bien classé, qui était 28 peut-être, alors que là Hugo était 34 ce dimanche. Défaite donc en 2-7, mais un discours d'une maturité assez bluffante quand on l'a rencontré en gros 1 heure après la défaite. Il sortait de la douche, son agent Daryl, mon fils, écoutait religieusement les paroles. Et franchement, ça s'écoute. Faut pas oublier que ce gamin n'a que 17 ans. Et écoutez donc cette maturité, cette capacité d'analyse. Effectivement, il n'est pas parfait. Il a encore une énorme marge de progression. Écoutez donc Moïse Kouamé.
Oui, j'ai beaucoup appris, ça c'est clair. Il y a eu de bonnes choses, des choses à retravailler. Et c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de positifs dans ce match. Voilà, Hugo, il a fait une bonne partie. Voilà, en tout cas, je ressors bien sûr la tête haute et fière. Ça repart à l'entraînement. Dès la semaine prochaine, j'ai un autre tournoi. Donc, plus le temps de penser à la défaite. Voilà, il faut continuer à travailler pour être le mieux prêt possible. Ouais, bah, j'ai vu qu'à un moment donné, je peux rivaliser avec quelqu'un du top 30, 40, il est 30, que ce soit physiquement ou dans les coups ou tactiquement. Voilà, hein, une sorte de rivalité que j'ai pu instaurer quand même dans ce match. Alors là, j'ai eu beaucoup d'occasions de break, j'ai eu des occasions de revenir dans ce match. Voilà, et quelques petits détails qui ont fait que bon, malheureusement, ça n'a pas été le cas, mais. Voilà, non, très fier en tout cas de cette partie et j'espère en jouer d'autres.
On sent que ça a failli basculer. Et puis, à 5 partout, il y a des petites bêtises qui vous coûtent très cher finalement.
Je suis revenu et puis hop, je suis reparti malheureusement. Mais voilà, ça fait partie de l'apprentissage. Voilà, je ne peux pas être parfait tout le temps et ça s'est senti sur ce match. Voilà, à 5-5, il y a eu des petites fautes qui devaient pas y avoir. En tout cas, si je veux être le meilleur, bien sûr, il va falloir gommer très très vite ce genre d'erreur. Mais voilà, en tout cas, j'en suis conscient et c'est des choses que je vais devoir travailler très vite.
Écoutez, tenir ce discours à 17 ans, moi j'avoue que je suis sous le charme. Le gamin a tout compris. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que Moïse Kouamé a dévoilé la suite de son programme. Donc là, il vient de faire 2 Masters 1000. Il va redescendre clairement de catégorie puisque ses coachs, donc Richard Gasquet et Laurent Raymond, l'ont inscrit donc dans une dizaine de jours, enfin non, l'autre semaine, dans un futur, un 35 000 $ en Sardaigne, sur terre battue bien sûr, à Santa Margherita di Pula. Je vous conseille d'aller voir le site internet de ce tournoi. Ça se déroule dans un resort en Sardaigne avec des petits cours sympathiques. Bon, c'est pas le luxe d'un Masters 1000, loin de là, mais je trouve que la démarche est intéressante, à savoir, bon, t'as goûté au meilleur du circuit, maintenant tu vas repartir à l'usine et tu vas aller gratter des points ATP pour pourquoi pas, c'est encore possible. Décrocher ta place pour les qualifs de Roland-Garros. On sait que le cut en général est à 220, 200, 230. Il a encore presque un mois pour gratter des points. Donc première mission, donc aller pourquoi pas remporter un troisième futur cette année. Après Hasbrouck et Bressuire, direction donc la Sardaigne. Et évidemment, on suivra ça de près. Mais comme il le dit, il y a un plateau qui est assez relevé. Et pour lui, challenger au futur, c'est la même chose. Les niveaux sont très, très proches. En tout cas, c'est une belle preuve d'humilité. Et ça prouve qu'on n'a pas la grosse tête dans le clan de Moïse Kouamé. On repart au charbon pour essayer de gratter des points avant, j'imagine, de jouer des tournois plus importants. Est-ce qu'il aura une wildcard au Challenger d'Aix, par exemple? C'est tout à fait possible. En tout cas, Arnaud Clément va tout faire pour l'avoir dans son plateau. Il y a aussi le tournoi de Bordeaux. Bon, c'est un peu plus tard dans la saison, mais j'imagine que c'est dans la tête de son staff avant le verdict de la wildcard pour Roland. Ça, on aura l'occasion d'en reparler. Est-ce qu'on lui donne une wildcard pour le grand tableau avec donc des matchs en 5 sets? C'est une destination totalement inconnue pour Moïse Kouamé. Ou alors, est-ce qu'on se contente de la wildcard de Calife, s'il en a besoin, bien sûr. Ça va animer un peu les semaines qui viennent dans les différents podcasts qu'on va évidemment vous concocter avec toutes les équipes d'RMC Sport. Voilà, j'en termine pour ce soir. Il est tard, ça a été une journée très longue. Je ne cache pas que c'est dans ma chambre d'hôtel que j'enregistre cette petite carte postale parce que voilà, il fallait quitter les lieux. Hein. On nous a fait comprendre que si on ne voulait pas rentrer à pied à l'hôtel, il fallait accepter la navette de 22h30. Voilà, ça c'est les petites coulisses du métier. On se retrouve évidemment lundi pour le débriefing d'une journée où il y aura très peu de Français puisque il y a que deux bleus qui sont au programme. Arthur Hinderknecht sera opposé à Karen Khachanov, ce sera sur le Cours des Princes dès 11h, et le deuxième bleu qui sera en lice, c'est Adrian Manarino qui sera opposé à Zizou Berg. Ça veut donc dire que Moutet Muller, ce sera mardi, tout comme Atman Quinn, puisque Terence Atman connaît son adversaire. Ce sera là aussi un lucky loser, hein, puisque l'Américain Quinn a été battu au dernier tour des qualifs par l'Argentin Comesana. Voilà, je pense qu'on est complet. Et puis il y aura aussi les débuts de Valentin Vachereau, programmé en quatrième rotation sur le central. C'est un cours sur lequel il n'a jamais gagné la moindre rencontre. Donc il y aura un beau challenge à relever pour le Monégasque. Ciao, ciao, à bientôt.